auditeurs, bonsoir, très heureux de vous retrouver en ce dimanche soir très ensoleillé et très encombré. D'ailleurs, il y a toujours plein d'activités au Parc des Princes, à Roland-Garros, etc. Mais néanmoins, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour, comme à l'habitude, 3 heures d'émission en direct, 2 parties. Nous recevons tout d'abord Anca Vidaille, qui est écrivain dramaturge, et pour son livre, cette biographie passionnante sur un de nos grands auteurs de théâtre. Il s'agit de Jean Anouilh. Elle publie aux éditions Classiques Garnier cette biographie Jean Anouilh, cette illustre inconnue. Ça, c'est la première émission. C'est d'ailleurs la suite de celle que nous avions déjà réalisé il y a quelques semaines de cela. Et puis à 19h30, nous recevons François-Guillaume Lorrain, qui est historien et journaliste, à l'occasion de la publication aux éditions Tempus, ces lieux qui ont fait la France. Et nous allons plus particulièrement ce soir parler d'un lieu très particulier, qui est un lieu très connu, et qui se trouve à Versailles, mais qui est complètement éclipsé par le palais. Il s'agit de la salle du Jeu de Paume, là où a eu lieu ce fameux serment. Et nous allons parler, bien entendu, de l'histoire de ce serment du Jeu de Paume, des suites de ces commémorations, de la manière dont cet événement est resté dans les mémoires à travers, justement, l'histoire de cette salle du Jeu de Paume. Nous n'avons pas de standard ce soir, mais néanmoins, vous pouvez nous adresser vos questions, vos remarques, que nous aurons plaisir à transmettre à nos invités. Vous pouvez donc le faire par courrier électronique. Je rappelle l'adresse de la radio, courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr, et nous abordons donc la première partie de cette émission. Nous avions consacré une première émission à Jean Anouilh il y a quelques semaines, et plus particulièrement à son enfance, à sa jeunesse, à son attachement aussi, il faut le dire, c'est important, à son père adoptif, ses rencontres marquantes.
Non, c'était pas son père adoptif.
Oui, enfin bon, ce n'était pas son père non plus génétique. Eh bien,
c'est
une rencontre marquante avec Jouvet, avec Pitoëf, avec Freinet, avec André Barsac. Et puis aussi, nous avions évoqué ces modèles, ces paternités théâtrales, en quelque sorte, et spirituelles, avec Giraudoux et Molière. Nous avions parlé de ses premières œuvres, ainsi La Sauvage, Le Voyageur sans bagage, cette pièce qui a eu d'ailleurs un grand succès, c'est son premier grand succès, puisque Brasillac a écrit que cette pièce était le baptême de Jean Anouilh. Son ambition, celle qu'il a exprimée, c'est divertir le public, car pour lui, il n'y a rien de plus beau pour faire oublier à l'homme le fait d'être mortel. C'était son ambition. Son amour du théâtre et le respect du public sont ses guides, et ce le sera d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie. Nous en étions arrivés à la guerre. Il est mobilisé, il échappe à la condition de prisonnier. Vient maintenant le temps des chefs-d'œuvre, dont bien sûr l'immortelle Antigone, qui a été écrite et joué pendant l'occupation allemande, ce que de grands esprits haineux d'ailleurs vont lui reprocher. Certains, la libération, demanderont à ce qu'Anouilh soit d'ailleurs fusillé, d'autres le traiteront de Waffen-SS. Cette guerre et puis son issue en France avec l'épuration ne le laisseront pas indemne, selon ses termes. C'est à ce moment-là qu'il est devenu vieux. Il s'agit en effet d'un tournant majeur dans la vie de notre grand auteur.
C'est pas là qu'il est devenu vieux, c'est très important de le dire. C'est pas à cause de la guerre, c'est pour une raison très précise. Je suis un peu triste que vous ayez cité dans tous les le cœur tout à fait unanime qui adorait les pièces d'Anouilh que vous ayez cité Brasillac. Il se fait qu'il n'avait aucune amitié pour Brasillac.
Oui,
il n'avait aucune sympathie.
Oui, on va en parler. Je termine.
Je corrige ce que vous avez dit, oui. Parce qu'il est devenu vieux. Il est devenu vieux parce que c'était un homme de conviction. Il s'était engagé avec d'autres gens de grande qualité, comme Albert Camus, à recueillir quand même des signatures pour Brasiac.
Nous allons en parler. Nous allons en parler. C'est la période de cette vie, en effet, où il dit qu'il devient vieux. Alors, vous allez bien sûr nous préciser...
Il devient vieux après avoir collecté des signatures.
Vous allez nous préciser les circonstances dans lesquelles il dit qu'il est devenu vieux.
Quand vous me laisserez le temps, je le ferai.
On va en parler. C'est à l'occasion du recueil de toutes ces signatures pour obtenir la grâce de Brasillach. Et ça a été à la fois une opération réussie, puisqu'il obtient, nous allons le voir, beaucoup de signatures, mais c'est aussi pour lui un drame. C'est ainsi qu'il s'exprime. Voilà. Et je cite Brasillach parce que si cette remarque sur cette pièce, le voyageur sans bagage, Brasillach étant critique de théâtre, je pense que c'est.
Il y en avait 30 critiques, ils étaient tous d'accord. Je pense qu'un des grands problèmes de Hanoï, c'est que les gens font du mélange. Il y a certains mots, quand vous les prononcez, les gens sont très. Vite, ils sortent des armes idéologiques et je déteste ça. Je vais vous donner un exemple très récent et vous allez comprendre pourquoi ça m'inquiète beaucoup. Je suis allée très récemment dans une belle librairie que j'adore, qui m'invite à chaque fois pour tous les livres, avec gentillesse, avec des bons libraires. Et la libraire, la patronne, la fondatrice, me dit « Et qu'est-ce que vous avez fait en dernier ?» Et moi, fière, comme quand j'arrive chez vous, la joie de présenter mon Hanoï, je dis « Fais un genre Hanoï. » Et croyez-moi, j'ai des témoins. C'est en suivi une discussion de 30 minutes dans laquelle elle m'a traité Hanoï de fasciste. Elle m'a dit que jamais dans sa librairie, qui est bien connue, qui est de grande qualité, je le dis bien, hein, que jamais dans sa librairie on aura ce fasciste. Alors, j'ai argumenté. Il ne faut jamais laisser dire une bêtise sans réagir. Ou une inexactitude. Si les gens sont honnêtes, ils vont se corriger aussitôt. Il a commencé à me sortir Drieu-La Rochelle. Je lui ai dit, mais pourquoi vous parlez de Drieu-La Rochelle? Il n'était pas ami. Elle m'a sorti Brasillach. Vous me laissez parler?
Je vais vous rendre la parole. Je finis mon introduction. Et je vous réponds sur Brasillach, ici à Radio Courtoisie.
Vous n'avez pas à me répondre sur Brasillach, moi je dis ce que je connais.
Bien sûr, mais Brasillach a vraiment dit ça. Nous parlons de la relation, bien sûr, avec Brasillach. Hanoï s'est beaucoup investi pour obtenir sa grâce. Des auteurs ont signé pour la grâce de Brasillach.
Vous me direz quand je peux parler et raconter cette histoire.
Oui, vous allez le faire. Il n'y a aucune honte à citer Brasillach. Moi j'aime beaucoup Brasillach.
Moi je pense que c'est complètement impopulaire de faire que citer Brasillach sans arrêt, alors qu'il y en a plein d'autres qui sont extrêmement intéressants.
Très bien.
Ça réduit un groupe qui n'est pas le sien.
Très bien.
Je
ne partage pas votre avis sur votre opinion sur Brasillach.
D'opinion sur Brasillach. Mais, je regrette que vous ne citiez que Brasillach.
Mais je le cite parce que vous en parlez dans votre livre, madame.
Vous citez que lui.
Eh bien, vous allez en citer d'autres. Je vous laisse la liberté d'en citer d'autres, il n'y a aucun problème. C'est une introduction et je vous prie de me laisser terminer mon introduction, s'il vous plaît. Hein? Voilà.
Elle est longue.
Après, vous direz ce que vous voulez, mais je ne fais que vous citer. Voilà. Hein? Donc maintenant,
phrase parmi d'autres et hors du contexte.
Non, c'est pas du tout.
C'est hors du contexte, parce que j'en cite d'autres.
Si vous voulez, je termine cette introduction, je vous présente aux éditeurs. Et après, vous pourrez faire les commentaires que vous voulez. D'accord? Voilà, moi j'ai l'habitude de laisser parler les gens.
Je remarque.
Et vous me laissez aussi terminer, s'il vous plaît. Voilà. Alors, j'en étais rendu à l'épuration, qui est une période difficile pour Hanoï. Nous allons donc, c'est aussi la période où il écrit un certain nombre de très grandes œuvres que nous allons évoquer ce soir. Et puis aussi, nous allons le voir dans la suite de sa vie, ce sera plus particulièrement cette période que nous avons évoquée, donc en compagnie d'Ankavidej, chers auditeurs, vous l'avez entendu, à l'occasion de la publication de cette biographie. Ankavidej, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Deuxième fois, c'est la revanche.
C'est la
deuxième émission.
Oui, c'est la deuxième émission consacrée donc à votre livre sur Jean Hanoï. Je vous présente de nouveau aux auditeurs qui vous connaissent bien. Vous êtes biographe, vous êtes écrivain, vous êtes dramaturge, vous êtes aussi metteur en scène. Vous avez d'ailleurs écrit de nombreuses pièces de théâtre. Je citerai quelques biographies pour lesquelles d'ailleurs nous avons eu le plaisir de vous recevoir. Vous avez écrit une biographie consacrée à Orson Welles. Vous avez écrit aussi une biographie consacrée à Alberto Giacometti. Et puis une biographie consacrée à Suron, le Gai Savoir, que vous avez publié aux éditions de l'Archipel et qui vous a valu le prix Goncourt de la biographie. Voilà. Alors j'avais une question quand même à vous poser en introduction, avant de rentrer effectivement dans le vif du sujet. Jean Anouilh a déclaré, et j'ai appris ça récemment, qu'il n'avait rien à dire à tout le monde. C'est son expression. Je n'ai rien à dire à tout le monde. Et ce que vous nous avez expliqué, c'est qu'il écrivait pourtant au rythme d'une pièce par an. C'est un gros travailleur. Et ça me semble un peu paradoxal comme réflexion. Qu'en pensez-vous?
Je comprends que ça vous semble paradoxal, mais d'où est-ce que vous tirez cette citation? Je ne l'ai jamais vue.
Oui, jamais
je pourrais l'interpréter parce que je connais Anouilh. Mais d'où est-ce que vous l'avez trouvé?
De mémoire, j'ai entendu sur, je crois bien, je ne le garantis pas, mais sur une émission de France Culture.
Oui, mais il a sorti d'où? Quelle est la source?
Oh, ben ça, je n'en sais rien. Justement, ça m'avait étonné, donc j'en ai pris note et puis je vous la soumets.
Je vous comprends. Tel que je l'ai connu, parce que j'ai eu la chance de vraiment l'avoir très bien connu, et il était quelqu'un qui ne laissait jamais passer une imprécision. Il était d'une rigueur, toujours avec humour, mais d'une grande rigueur. Donc ce que je comprends, moi, si des fois il a dit cette phrase que je n'ai jamais vue, c'est qu'au fond, je n'ai rien à dire à tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde n'est personne. Il n'y a pas de responsabilité. Comme on disait aux enfants, on, c'est un con, pour qu'ils disent « nous, moi ». Et qu'ils ne disent pas « on ». Et je pense simplement que si cette citation a existé, il voulait dire « à tout le monde, je dis rien ». Et vous savez très bien qu'il ruait dans les brancards et qu'il était seul de son avis et qu'il défendait son point de vue. Donc « à tout le monde, il n'aurait jamais plu ». Je vais vous rappeler une très jolie citation que vous connaissez sûrement. Il y avait un immense philosophe grec qui disait « la foule applaudit, mais j'aurais dit une bêtise ». Donc quand tout le monde applaudit, c'est que quelque part, on a dit un truc qui est trop consensuel. Donc il n'a rien à dire à tout le monde, mais bien sûr, à ses spectateurs, au monde, à l'âme humaine, il avait tellement à dire et tellement de générosité.
Alors la période de la guerre est pour lui une période en effet de grande création. Il crée beaucoup de pièces. Citons par exemple Léocadia. Et puis il y a aussi le rendez-vous de Senlis, il y a Eurydice, avant d'en arriver effectivement à ce véritable chef-d'œuvre qui est Antigone. Alors souhaitez-vous dire un mot sur Léocadia, le rendez-vous de Senlis, Eurydice ou...
Ce sont des pièces exceptionnelles. C'est un homme qui est en pleine possession de ses moyens. C'est la quarantaine, il a commencé tôt, il aime le théâtre, il l'adore. Ce sont trois réussites exceptionnelles. Et puis évidemment, l'amitié avec Barsac, qui mettait en scène ses pièces, aide énormément. Si vous êtes une équipe, vous savez, l'auteur de théâtre, par rapport à un auteur de biographie ou de roman, il est très impuissant. Parce qu'au fond, son texte, tant qu'il n'y a pas de comédien, il n'existe pas. Il n'existe qu'avec le public. Donc, ce qui est formidable, c'est qu'il avait trouvé cette équipe, ce duo extraordinaire avec Stéphane Barsac, et qu'ensemble, ils ont fait ces trois chefs-d'œuvre. Les pièces sont exceptionnelles. Je conseille à nos auditeurs qui ont du goût pour la littérature de les lire. S'ils ne les voient pas jouer, ils sont publiés dans l'avant-scène. On les trouve dans la Pléiade, dans les pièces complètes. Les trois pièces sont absolument exceptionnelles. En plus, on peut laisser la lecture en plan. Quand on en a assez, on peut revenir sur un monologue. Elles sont merveilleuses. C'est un auteur à sa maturité. Il ne cherche pas sa voix. Il rêve dans Léocadia, dans le rendez-vous de Senlis. Il rêve aussi, mais en trouvant des solutions. Chaque fois, il fait l'amour de l'homme dans des personnages et des décors différents, avec son grand cœur généreux et son talent.
Vous évoquez d'ailleurs, lorsque vous parlez du rendez-vous de Senlis, la classification des pièces d'Anouilh, on connaît tous ces classifications, pièces noires, pièces roses, etc. Et vous ajoutez, il ne faut pas donner à cette classification plus d'importance que n'en donne Anouilh lui-même. Qu'est-ce que c'est que ces classifications?
C'est presque un canular, parce qu'au moment où ils ont décidé de publier les pièces d'Anouilh en volume, ce qui était pour la première fois, ça lui est arrivé, il y avait la table ronde, qui était initié par Roland Lodenbach, un mec merveilleux, qui avait décidé de mettre de l'argent qu'il trouvait, chez les mécènes en faisant un volume des pièces d'Anouilh. Et il propose ça à Anouilh, il s'entendait très très bien. Et à un moment donné, il se dit, mais comment on va s'appeler le volume ? Et il part dans la pièce à côté pour chercher un contrat. Et là, c'est dans les souvenirs d'Anouilh qu'on le trouve. Anouilh dit, il fallait bien que je trouve quelque chose. Donc du coup, je me suis dit, et si après le premier volume, j'en avais un deuxième ? Et comme effectivement, vous l'avez rappelé, il faisait une pièce par an, donc la preuve c'est qu'il en a fait 60, il a dit, mais peut-être qu'il fera un deuxième volume. Donc il a dit, pièce noire, pièce rose. Il a donné les deux premiers, mais ça n'avait aucun sens.
Ça n'a pas de sens.
À mon avis, enfin, ça n'avait pas plus de sens que de faire une classification. C'est vrai que quand la pièce était un peu noire, que la fin était triste, il la mettait dans les noirs et dans les roses. Ça n'en avait aucun. En revanche, et là, c'est Anouilh, avec son humour, avec l'art de ne rien oublier, ne rien laisser passer, il a eu trois fours. Trois fours dans sa carrière. C'était la grotte, c'était des pièces qui étaient plus ou moins autobiographiques. Et il a tenu à publier à la table ronde volume qui s'appelle « Mes fours ». L'éditeur a essayé, c'était plus Roland Lodenbach, a essayé de résister, mais il a gardé quand même en sous-titre « Mes fours ». Donc Anouilh, c'était quelqu'un qui assumait tout, qui assumait son talent, son amour de l'humanité, mais aussi, quand il trouvait que ça contredisait ses convictions, il réagissait aussitôt. Donc quand il y avait des fours, il le disait.
Alors, il faut comme aussi préciser que c'est en 1942... que Mila, la femme de Barsac, son grand metteur en scène, hein, et son ami, qui est caché chez les Anouilh, parce que je crois qu'elle est juive, et il va la cacher. Alors, d'ailleurs, où se trouve-t-il à ce moment-là ? Il partage son temps entre... Où habite-t-il ?
Bon, il habite à Paris.
Il est à Paris.
Il habite à Paris. Il D'accord. est à quelques pas, à quelques encablures de Théâtre de l'Atelier. On vient de décider de l'Étoile jaune. Et puis je reviens, je regrette beaucoup, je reviens à mon histoire de libraire. Il y a une semaine qui m'a vraiment troublée. Parce qu'au moment où j'ai vu que cette personne commençait avec le fascisme et tout ça, c'est clair que je n'allais pas présenter le livre. Mais c'était une personne que je respectais. Donc je me suis dit qu'il ne faut pas qu'on évite nous aussi un problème. C'est que dans beaucoup de milieux ou de petites chapelles, on imagine qu'Anouilh était fasciste. Et c'est très amusant, dans cette discussion, j'ai sorti exactement ce que vous dites. J'ai dit, Mila Barsac a été caché par les Anouilh. Il vivait avec mon élève Valentin, à l'époque, dans son appartement parisien. Et pour donner un peu de force à mon argument, j'ai dit, Poirot Delpeche et moi, nous avons trouvé le document. Et à ce moment, ma libraire favorite me répond « Mais Poirot Delpeche est mort !»
Alors qu'il ne peut plus témoigner.
Et ben, vous savez ce qui est extraordinaire ? C'est que c'est un article du Monde que j'ai gardé toujours. Nous avons fait la recherche et il y a beaucoup plus fort que ça. Et là, vraiment, bon, ce n'était plus la peine de sortir l'argument, mais pour nos lecteurs, pour nos auditeurs, j'ai un plaisir fou à le sortir. Vous savez qu'il n'a pas caché que Mila. Et l'État d'Israël lui a proposé d'être juste parmi les nations. Colombe, sa fille, peut vous le confirmer. Et Anouilh, qui ne se défendait jamais, toutes ces accusations, c'est pour ça que je pense que ceux qui l'aiment et qui le connaissent doivent le défendre. C'était un gentleman, il ne se défendait jamais. C'était vraiment « never explain, never complain ». Donc du coup, autant il n'a jamais répondu à des accusations fausses, qui étaient des accusations souvent d'envie, autant là, il n'a pas répondu, il a remercié, mais il n'a pas voulu le titre. Comme, exactement, comme vous savez très bien, plus tard.
Vous écrivez d'ailleurs qu'il n'y a qu'une décoration qu'il a acceptée d'ailleurs, qu'un seul prix, je ne sais plus lequel.
Bravo. C'était... Le prix, si, je vous dis avec plaisir. Alors c'est le prix du brigadier, parce que c'est un prix donné par les techniciens.
Et bah, tous ces amis. Qu'est-ce que c'est que ce prix ?
C'est un prix donné par les techniciens du théâtre. Donc, si vous voulez, en tant que valeur intellectuelle, c'est le moins important. C'est le moins important. C'est un truc donné par les techniciens. Mais comme c'était vraiment un homme de la bande et du théâtre, et bon, ça lui a fait un plaisir fou, parce que justement, c'était des gens qu'on passe sous silence d'habitude. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, il a refusé, tous ses amis insistaient, pour qu'il soit à l'Académie française. Il l'a toujours refusé. Donc, il faut faire très attention quand vous entendez quelque chose sur Anouilh, il faut vraiment le vérifier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent sans savoir.
Donc, c'est l'époque où il écrit ces trois pièces, d'ailleurs, que vous qualifiez de chef-d'œuvre, Antigone, dont nous avons parlé, Roméo et Jeannette, et l'invitation au château. Alors, on a parlé d'Eurydice, nous avons parlé de Léocadia, du rendez-vous de Senlis, vous avez dit que c'était des pièces qui étaient excellentes, mais là, ce sont des chef-d'œuvre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un... Vous êtes auteur de théâtre. Alors, c'est quoi en théâtre? Une pièce de théâtre qui est un chef-d'œuvre. Et pourquoi ces pièces-là particulièrement?
Ah, oh, mais il y a des chefs-d'œuvre
après. Vous les considérez comme des chefs-d'œuvre?
Il y a des chefs-d'œuvre après. Mais effectivement, on prend comme exemple les trois. Ben, c'est très simple. C'est une pièce où le public ne s'ennuie jamais. Et c'est une pièce où, tout en n'ennuyant jamais le public, en le distrayant, on arrive à faire passer des vérités essentielles et des vérités qui ne sont pas dans toutes les pensées. Donc, je voudrais dire qu'une vraie pièce, un chef-d'œuvre, quand vous sortez, vous êtes transformé. Et je pense que toute bonne pièce de théâtre ou toute bonne œuvre artistique doit vous transformer. Pas de façon didactique, pas pour vous apprendre des choses, mais de façon à ce qu'elle révèle en vous des choses de vous que vous ne sachiez pas avant. Ça, je trouve merveilleux. Et Anouilh, franchement, il le fait.
Et vous compte, donc, Antigone, cette pièce qu'il écrit en 1942. Il termine d'écrire, d'ailleurs, en juin 1942.
Alors, je suis très contente que vous arriviez là, parce que c'est très important. C'est très important pour plusieurs choses. D'abord, parce qu'Antigone est au programme scolaire. Et que c'est très bien, je suis très heureuse, c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas publié chez l'Archipel, qui est mon éditeur habituel, le prix Goncourt, mais j'ai publié chez Classique Garnier. Parce que Classique Garnier, c'est effectivement une édition universitaire. Donc j'ai pensé aux enseignants, tous sûrement très bien motivés, qui présentent Antigone à leurs élèves et qui avaient peut-être besoin d'une information que j'ai apportée très volontiers. Donc la pièce, elle est écrite en 42, comme vous le disiez. On était sous l'occupation. Barsac il fallait un visa, un stempel de la Kommandatur pour pouvoir jouer une pièce. Barsac fait le nécessaire. On leur donne le visa. La pièce, la première de la pièce, et c'est essentiel, a lieu le 14 février 1944. Barsac écrit, là je fais exprès, parce que c'est tellement beau, c'est une si belle histoire, et tellement méconnue. Barsac écrit lui-même, le lendemain, alors que aucun, le lendemain de la première, le 15 février, alors qu'aucun journal n'était paru, aucune critique, devant l'atelier, il y avait une file qui descendait jusqu'au boulevard. Comment tous ces gens-là avaient pu savoir que la pièce était intéressante? Eh bien, c'est très simple. C'était une pièce, d'ailleurs, c'est très intéressant comment on a pu déduire que ça pouvait être une pièce de Waffen-SS, parce que c'est une des raisons pour laquelle, justement, elle est au programme scolaire et puis au programme du bac, c'est que, justement, c'est une pièce de résistance. Au moment où Antigone désobéit au roi de la cité, qui est d'ailleurs son oncle Créon, et qu'elle décide d'enterrer l'un de ses frères qui s'est levé contre la cité, donc qui est considéré comme un traître, et là, une résistance totale. Et quelles que soient les menaces du pouvoir Créon, il continue jusqu'à y perdre sa vie. Donc, regardez-moi la situation. Nous sommes sous l'occupation allemande, on présente une pièce où une jeune femme défie le puissant roi de la cité et arrive à le défier jusqu'au bout, sans qu'il puisse avoir raison. Dites-moi comment ça ne peut pas être une pièce sur la résistance. Ce qui est très joli, c'est que ça a eu un succès fou, et un succès tellement fou qu'ils se sont inquiétés. Donc Barsac a été convoqué aussitôt chez la Kommandatur, et puis on s'est rendu compte, il est venu, Anouilh il dit très joliment, il a fait l'imbécile, ce qu'il faisait très bien. Donc il a fait l'imbécile et il dit, mais je ne comprends pas. Vous m'avez donné le visa pour cette pièce. On a cherché, on a découvert qu'évidemment, Balzac disait la vérité, ils avaient eu en 1943 le visa. Vous savez pourquoi? Ils avaient cru que c'était l'Antigone de Sophocle.
De Sophocle, oui.
Mais ils ne pouvaient pas se dédire. Ils avaient donné le visa. Alors, on a dit à Barsac que ça serait bien quand même de jouer des pièces plus intéressantes. Par exemple, des pièces d'auteurs allemands. Ils n'ont pas dit de Schiller parce qu'ils étaient juifs. Mais c'est très drôle parce qu'ils sont revenus, ils ont joué. Et le 18, je crois que c'est le 18 août 1944, toutes les pièces de Paris ont été arrêtées par l'occupant. Les théâtres ont été fermés à cause des combats de rue. Ce qui fait qu'Antigone, en plein succès, s'est arrêtée. Au moment où elle a été jouée, il y avait peu de critiques. Mais en septembre, quand ça a été repris, tenez-vous bien, tout d'un coup, tous ces gens qui se seraient découverts résistants, tout de suite on peut citer un nom, le pauvre, parce qu'il est mort, c'est Salacrou. Et Salacrou a commencé que c'est la pièce de la Waffen-SS, qu'il faut fusiller Anouilh, enfin des horreurs. Évidemment, Anouilh a été convoqué, Il a été convoqué 2 heures. Il a expliqué ce qu'il avait fait. Il y avait rien de, il n'avait fait aucun article partisan, aucun hommage aux Allemands. Il avait publié dans la presse 3 articles qui étaient des hommages à des gens du théâtre. La mort de Dulin, d'autres gens, donc absolument propre comme tout. Donc le comité d'épuration l'a laissé tranquillement partir au bout de 2 heures, où il s'était expliqué, où ils avaient passé un bon moment, et voilà, la pièce avait repris. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette pièce où Barsac et Hanouille risquaient franchement leur vie, parce qu'ils ont eu très peur, ils avaient tous les deux des enfants jeunes, ils étaient responsables de leur femme et tout. Ils ont joué cette pièce, ils ont pris ce risque, et c'est à la générale dite libérée, donc à la générale, à la nouvelle générale, c'est une pièce qui a eu, c'est pas par hasard, 2 générales, et à la générale libérée au mois de septembre, on aurait dû tous s'embrasser, être très heureux, parce que tout allait bien, c'était repris, les Allemands étaient loin, et ben là, voilà, tous les copains qui n'avaient pas eu le succès de Hanouille, se sont réveillés, et évidemment, Salacrou est un cas, parce que Salacrou était un...
Salacrou appelle à ce qu'il soit fusillé, hein.
Mmh. Exactement.
Il n'y a peur de rien. Hein.
Oui. Et vous savez qu'il y a eu des gens formidables qui étaient des journalistes et qui ont déclaré à un moment donné nous avons entendu Salacrou, ça a été confirmé par beaucoup d'écrivains à la Société des auteurs, qu'il a dit il était pris de boisson, c'est certain, à la fin d'un repas. Et il a dit vous savez, il faudrait fusiller Hanouille, pourquoi? Et il avait dit parce qu'il a plus de succès que moi. Mais il était ivre.
Oui, il un journaliste. Ivre. On lui pardonnera alors s'il était ivre.
Un journaliste. Bon, je crois pas que c'est... Je pense que l'envie est un péché capital. Mais c'est gentil ce que vous dites. C'est rabelaisien. C'est très gentil. Mais ce qui est très beau, c'est que le journaliste a continué et il a mis par écrit. Salacrou a demandé ça. Salacrou fait tout de suite un procès. Alors, vous savez la responsabilité de la presse puisque vous êtes journaliste. Donc, il y a le rédacteur en chef qui... Et à côté de son journaliste, ils se défendent. Et le plus joli dans l'histoire, c'est que bon, ils ont été, je crois, condamnés en franc symbolique, et c'était plus ou moins en non-lieu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le journaliste en a remis une couche devant le parquet en disant, écoutez, tout le monde sait que M. Hanouille gagne sa vie avec l'écriture. Alors que M. Salacrou a tué un nom innombrable de poux. Et qu'on n'y a pas fait de procès. Je ne sais pas si vous avez compris, parce que même moi, je n'ai pas compris, c'était ma génération. Au fond, la famille Salacrou était richissime parce qu'elle fabriquait la marée rose.
Ah, c'est ça.
Elle fabriquait l'insecticide pour les poux. Mmh. Donc, le journaliste s'est fait un plaisir fou, comme il n'a pas été condamné, de dire, bon, finalement, il y a un assassin. Comme il tue des poux, il voulait tuer Hanouille. Donc, vous voyez l'humour qu'ils avaient, les mecs, à l'époque. Hein?
Dans ce chapitre que vous consacrez à Antigone, donc, vous dites que l'affrontement... autour de cette pièce, notamment à la Libération, est de même nature que celui qui s'est déroulé à propos du silence de la mère de Vercors, qui lui a été publié dans la clandestinité en 1942. Vous faites ce lien. Le silence de la mère de Vercors, c'est une œuvre aussi absolument magnifique.
Absolument.
Pourquoi faites-vous ce lien entre ces deux ouvrages?
Parce que ce sont des œuvres courageuses, et au moment où elles paraissent, tout le monde se tait. C'est-à-dire que tout le monde ne veut pas faire de vagues. C'est trop dangereux. C'est trop nouveau, c'est trop dangereux. Il y a un ou deux courageux qui se lancent et les autres se taisent. Mais dès que les vannes sont ouvertes, au lieu de jouir ensemble du fait d'une bonne œuvre, là, tout d'un coup, on recouvre le silence de la mer de compliments et en même temps, on trouve, si j'ose dire, on cherche des poux dans la tête de l'Antigone.
Alors vous écrivez, Antigone d'Hanouille, ce sont des incitations à désobéir à la loi des hommes afin de suivre, quels qu'en soient les risques, la loi du cœur.
Écoutez, j'ai rien de plus à dire. Je vous remercie de citer ça, c'est splendide.
Vous pensez que c'est ça qui fait le succès de la pièce, pardon?
Entre autres, oui, entre autres.
Est-ce qu'il a une forme différente de ses autres pièces? Est-ce qu'il a un style différent? Déjà, une chose qui surprend toujours, c'est qu'elle est jouée en costume contemporain. Et ça demande une raison à ça.
Bien sûr. Vous savez laquelle?
Justement, je vous pose la question.
Bien sûr, avec plaisir.
En parlez dans votre livre, mais je préfère que vous le disiez aux auditeurs de Radio Courtoisie.
C'est la pauvreté, bien sûr, avec joie. C'est la pauvreté, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas, c'était sous l'occupation, ils n'avaient pas de costume, ils n'avaient pas de décor. Et comme toujours, là, pour un vrai homme de. Pour un vrai artiste, pour un vrai écrivain aussi, la contrainte est toujours stimulante. Donc, ils n'avaient pas d'argent pour les décors, ils n'avaient pas de costumes. Alors, ce qu'Hanouille a voulu avec Barsac, on ne sait pas lequel des deux a eu l'idée, c'était sûrement ensemble. On les appelait les jumelles, ils étaient toujours d'accord. Donc, je pense qu'il y a deux choses. Les costumes modernes, c'est parce que cette tragédie-là pouvait toujours se répéter. C'était pas la peine de mettre en costume grec, et rien que par le costume, on disait, vous voyez, ce que disait Brecht, le ventre de la bête est horrible et en train d'enfanter encore. Donc ça prouvait que ça pouvait toujours se passer, tout en faisant des économies. Et l'autre idée, et là c'est le génie de Hanoui, puisque c'était une pièce grecque, puisqu'on n'avait pas de décor, on allait la jouer comme en Grèce. On allait mettre sur une sorte de demi-cercle où les acteurs étaient assis, et du coup, en même temps, on faisait le lien avec la Grèce antique où il n'y avait pas de décor, comme chez Shakespeare d'ailleurs, il n'y en avait pas. Donc du coup, on se plongeait dans l'histoire, dans l'éternité de l'art, à travers le décor, et dans la modernité, à travers le costume. Et je vais vous dire une chose très, très jolie, c'est qu'ils avaient tellement froid parce que les théâtres n'étaient pas chauffés. On voit ça très joliment dans le dernier métro, que les gens allaient au théâtre, au cinéma pour se tenir chaud parce que les salles étaient pleines. Les gens adoraient l'art et c'était une manière aussi de résister. Donc du coup, les salles n'étant pas chauffées, les gens les chauffaient. Et tenez-vous bien, les comédiens jouaient avec des combinaisons de ski sous les costumes.
Tellement que j'ai froid.
Authentique, authentique.
Mais vous aimez, vous précisez quand même que Hanoui a toujours préféré des mises en scène très sobres et un peu de bric et de broc.
Oui.
Ça correspondait à son style.
Ça correspondait à son approche absolument pas intellectuelle du théâtre et du métier. Il avait une approche de simplicité extraordinaire qui était, son grand dieu était Molière, et il avait combien raison, son grand dieu était Molière, c'est-à-dire qu'idéalement, il aurait mis des tréteaux et vraiment, ils auraient joué dessus, exactement. Et comme d'ailleurs Shakespeare le faisait, Shakespeare au Globe, les gens s'installaient, éventuellement on avait une petite pancarte en disant, ici c'est le château d'un seigneur et c'est tout. Mais je pense qu'il avait aussi une simplicité, et j'ai cherché pour vous, comme c'est notre dernière émission, et je voulais vous dire la simplicité. Galabru est quelqu'un qui a merveilleusement bien connu. Et j'ai retrouvé une vieille interview de Galabru, je ne sais pas si j'ai tout mis dans le livre, mais pour nos éditeurs et pour vous qui avez souhaité, mais merci, cette deuxième émission, je voulais vous lire ce passage d'une interview de Galabru. Et vous verrez comment Hanoui, metteur en scène, travaillait. Le rite, c'était ça. On arrivait à 2 heures au théâtre de l'œuvre, dont le directeur était Pierre Franck. On commençait à répéter. Il ne se disait pas grand-chose. Les places, c'était très simple. Il n'enculait pas les mouches. Il fallait apprendre le texte. Or, les textes des grands écrivains sont plus difficiles à apprendre parce que c'est écrit. Vous ne pouvez pas changer un seul mot. Sinon, vous vous gourrez. Dans les petits textes de boulevard, on rajoute. Mais dans les grands textes, on ne peut pas. C'est carré. Marielle, que j'adore, car il a un humour désespéré, mais chaque fois que je le vois, c'est un enchantement, Marielle s'énerve. Un moment d'angoisse, il n'arrivait pas à retenir, ça arrive aux comédiens dans des moments d'angoisse, alors il dit brusquement, à pleine répétition, à Hanoui, « Vous me faites chier avec votre texte !» Hanoui lui répond, « Marielle, finissez, reculottez-vous et revenez-nous vite. » Moi, je lui demande, « Marielle, qu'est-ce qu'il a dit ?» Et Galabru répond, « Marielle, lapidez, il a écrasé. » Vous voyez l'atmosphère? C'est sans ambition, sans complication. Et les salles étaient pleines. Ces gens-là remplissaient les salles en ne se prenant pas au sérieux, en voulant juste, je reprends la citation, une autre citation qui ressemble, à nous, il disait, quel drôle de métier que de faire rire les gens pour leur faire oublier la mort.
Oui, c'était effectivement...
C'était
son ambition. Et c'est une très belle ambition, d'ailleurs. Mais alors, évoquons encore, si vous voulez bien, cette pièce, parce que c'est vraiment la grande pièce d'Hanoui. Il y a d'autres qui ont suivi, d'ailleurs. Nous allons en parler. Mais qu'est-ce qui différencie cette pièce par rapport à celle de Sophocle? On est dans le même thème. Antigone dit non, justement, à Créon. Elle désobéit à Créon pour les lois du cœur, parce qu'elle veut enterrer donc son frère. Qu'est-ce qui différencie, bien sûr, dans la forme, c'est évident, dans le style aussi.
Le langage plus moderne.
Oui.
Oui, on pourrait dire ça. Si vous voulez vraiment ce que je pense, à part la forme qui est un peu simplifiée, modernisée, mais Sophocle aussi, c'est un génie, donc ses mots tiennent le coup, même 2000 ans après. Je pense que ce qui est très important, et que justement, ceux qui ne comprennent pas à quel point c'est une pièce de combat, de résilience, de résistance, c'est qu'au fond, Créon a des très bons arguments. C'est-à-dire que Le rôle de Créon n'est pas que le pouvoir, il a des vrais arguments. Il a même des arguments affectifs, en disant « Antigone, n'oublie pas que je t'ai offert ta première poupée. » Et en même temps, son fils, à Créon, son fils unique et amoureux d'Antigone, il a toutes les raisons de la sauver. Et ce qui est formidable, c'est qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc si Créon est vraiment juste un dictateur imbécile, ça n'a pas grand mérite de résister. Mais il résiste à quelqu'un qui a des arguments familiaux, qui lui parle comme un parent. D'ailleurs, il va être son beau-père. Il allait être son beau-père si elle acceptait le pardon. Et le pardon, il le fait de plus en plus. Il essaie de la sauver par tous les moyens. Le pardon, il lui demande de moins en moins de choses. Il est prêt à mettre en scène des choses pour la sauver. Et non. Donc, ils sont, si vous voulez, de force égale. Et ça, ça nous explique une chose peut-être très importante. Et là, c'est intéressant pour l'épuration et pour les dangers que nous risquons sur notre vie de citoyen. C'est que deux personnes de qualité égale, de grande force, intellectuelle, honnête, peuvent se retrouver à une place ou à une autre. Prendre soin de la cité implique des devoirs que l'autre. Et ce qui est beau dans Hanoï, c'est que les deux ont raison. Il est l'avocat et très légèrement le procureur de tous les deux. Donc au fond, ils montrent leur humanité. Ça, je trouve que c'est plus fort, je me permets, hein, que chez Sophocle. C'est-à-dire que chez Sophocle, comme on croyait aux dieux antiques, c'est normal, c'est les dieux qui ont décidé. Mais Hanoï nous met deux hommes, deux êtres humains. Vous savez, ça je pense que ça parle, Hanoï était croyant. Il ne le disait pas, il ne hurlait pas sur les murs, mais était profondément croyant. Et croyez-moi, c'est un peu comme la double nature de Jésus-Christ. C'est-à-dire le fait de faire des hommes qui sont devant des défis énormes, religieux, mystiques, c'est ça qu'il a apporté. Et c'est grâce à votre question que je l'ai trouvé. J'y pensais pas.
C'est une belle comparaison en tout cas. Et, je vous propose maintenant d'aborder, si vous le voulez bien, cette période, cette blessure inguérissable. Ce sont vos termes, hein, vous écrivez « La libération tant attendue se doubla pour Hanoï d'une blessure inguérissable. L'épuration des hommes qui venaient de gagner un combat sur la barbarie devenaient barbares à leur tour. On ne construit rien sur le sang. Cette blessure a dû marquer Hanoï à jamais. » Alors il a eu, lui, il s'est fait insulter, vous l'avez rappelé, à la libération par un certain nombre de personnes qui était guidé plus par la jalousie, puisqu'on ne pouvait vraiment rien reprocher à Hanoï en la matière. Et Antigone est une pièce avant tout résistante, naturellement. Et donc je vous laisse évoquer justement la pétition pour Brasillac. Hanoï a fait circuler deux pétitions dans sa vie. Et les deux fois d'ailleurs, il va être confronté à Créon. C'est lui qui utilisait le terme à De Gaulle. Pour lui, De Gaulle, c'est Créon. Et il va être dans les deux fois. La deuxième fois, ça sera donc pour Laurent, hein, l'écrivain Jacques Laurent. Mm-hmm. Et donc, je vous laisse évoquer effectivement cette première pétition. Alors, lorsque vous évoquez ça dans votre livre, Ancavisida, je rappelle le titre Jean Hanoï, cet illustre inconnu que vous publiez aux éditions Classique Garnier. Bien entendu, vous l'avez rappelé, il n'y avait pas d'amitié particulière entre Brasillac et Jean Hanoï. Néanmoins, ils avaient un point commun. Alors ça m'a un peu subjugué. C'est que Hanoï avait écrit, comme Brasillac, des scénarios pour Caroline Chéry.
Eh bien, vous m'apprenez quelque chose parce que je ne savais pas pour Brasillac. Bon, c'est
mais
super.
Je l'ai vu ça dans votre livre.
Hanoï l'a fait. Brasillac, oui. Je ne sais pas. Brasillac a été il a pris en gros deux articles de Hanoï et surtout, il a publié une pièce de Hanoï. Mais c'est très intéressant ce que vous dites parce que tout à l'heure, j'ai oublié de préciser une petite chose qui est intéressante. Pourquoi Hanoï est arrivé au comité d'épuration? Parce qu'il n'avait rien à se reprocher. Tenez-vous bien, au moment où il a donné en feuilleton une de ses pièces au journal de Brasillac, Brasillac lui a envoyé ce qu'il lui devait. C'était très correctement, j'en suis persuadée. Mais ce n'était pas cher payé, c'était juste un feuilleton. Et Hanoï, qui avait toujours un humour extraordinaire, tout le monde ne comprenait pas, mais un humour fantastique, il lui écrit un petit mot en lui disant « Je vous remercie de ce chèque princier, je vais m'acheter une villa. » Et ben, cette lettre est arrivée au comité d'épuration. Et les mecs, les pauvres, ils étaient hors contexte, on les comprend. Ils n'ont pas su. Donc du coup, Heureusement, à lui qui gardait tout, qui était un homme, mais d'un rangement maniaque et intelligent, il avait gardé le chèque. Et puis du coup, il a pu prouver que c'était presque rien. Donc c'est amusant, c'était la seule chose qu'ils ont trouvée. Et évidemment, il a tout de suite prouvé. Ce qui est intéressant aussi dans ce que vous avez dit, c'est qu'au fond, tous ces gens, autant le pauvre, il y avait si peu contre Anoui. C'est vrai aussi qu'il n'était pas mondain, il ne sortait pas beaucoup. Mais de même que le pauvre Sacha Guitry a été baladé en peignoir sur les rues, alors que c'est à lui qu'on faisait appel quand on voulait libérer quelqu'un de chez les Allemands. C'est grâce à lui que Tristan Bernard était vivant et qu'on arrivait, pauvre Tristan Bernard, qui était en fauteuil roulant. Et bien c'est grâce à Guitry qu'on l'a libéré. Alors Guitry, le pauvre, qui en a libéré quelques-uns, on le balade en peignoir et puis on se moque de lui. Mais à nous, il y avait si peu contre lui que toutes les attaques étaient faites par écrit. Ce qui prouve quand même une certaine lâcheté. Bon, d'accord, c'était des écrivains, on est d'accord. Mais tous, ça l'accroue, tous ceux qui l'ont attaqué, ça n'a jamais été directement, et j'ai trouvé à la Société des auteurs, vous le savez, parce que vous avez lu le livre, c'est que ça l'accroue, quelques années après, il a voulu s'arranger, il a demandé au président d'organiser un repas avec Anoui. Évidemment qu'Anoui a refusé. Donc tous ces gens qui l'ont attaqué, c'était par derrière et par écrit. C'est intéressant à savoir. Et je pensais à l'Antigone, parce que vous m'avez posé des questions tellement intéressantes, j'espère qu'on a donné envie aux gens de le lire ou de le voir. Coup de pouce.
Il repasse en ce moment.
Ce que nous...
vous l'avez vu, non? Vous êtes allé le voir?
Je l'ai vu. Nous avions annoncé dans notre précédente émission ensemble que justement, un jour après, au Pochement-Parnasse, je dois vous dire que la mise en scène de Didier Long est absolument excellente. C'est magnifique. Il respecte plus ou moins l'emplacement de Anoui avec des trouvailles qui appartiennent. Écoutez, ce spectacle est un enchantement. Il faudra que je rembourse des billets si les auditeurs ne sont pas contents. Mais vraiment, je pense que ça va plaire à tout le monde. Bon.
Donc la pétition pour Brasillach, c'est lui qui prend l'initiative de contacter Izorni, hein, c'est ça? C'est ce que vous écrivez, je crois.
Il y a plusieurs choses qui se nouent. C'est-à-dire qu'au moment où on voit qu'il est condamné, il y a plusieurs gens. J'étais en train de lire une excellente biographie de Marcel Aimé. De son côté, Marcel Aimé, Anoui et lui étaient amis. Mais ils se voyaient surtout à Montfort-l'Amaury. Donc, comme ils étaient à Paris, ils ont, de façon différente, ils ont agi. Aimé a téléphoné à Izorni. De son côté, Anoui a téléphoné à Izorni. On savait que c'était son avocat. Et Izorni a répondu, écoutez, tout ce que vous pouvez faire, c'est d'avoir des pétitions extrêmement importantes et puis obtenir la grâce de De Gaulle. Jusque-là, Anoui ne détestait pas De Gaulle, pas du tout. Au fond, effectivement, il lui en a voulu et puis la raison était l'épuration. Il lui voulait jusque-là, il était neutre, mais l'épuration, il n'a jamais pardonné. Et ce qui s'est passé, c'est qu'Anoui a contacté les gens qu'il connaissait, et mais de son côté, ils ont eu vraiment des signatures fabuleuses. Il y a eu Camus qui s'est très bien exprimé, qui a dit au départ, je n'avais aucune sympathie, en soi, je ne voudrais pas signer cette pétition, mais pour l'intérêt de la justice et de la liberté de parole, je trouve que tu es quelqu'un qui a dit sûrement des choses très négatives, des appels au meurtre et tout ça, ce n'est pas la manière d'améliorer l'humanité. Et je pense que ça, c'est la grande, grande classe de notre grand humaniste. Donc, à nous y aller, et c'est là quand vous avez dit qu'il était fatigué, il a dit « je suis rentré vieux chez moi ».
Il a fait du porte-à-porte.
Lui qui n'a voulu jamais faire des visites.
Il a récupéré quand même de nombreuses signatures, je crois une trentaine.
Je crois qu'il a fait, non, peut-être moins sept.
Combien ?
30 en tout. 30 étaient en tout, mais il a fait 7. Il n'a jamais donné le nom des 4 qui l'ont refusé. Il a dit, le jeune homme Anoui qui était parti plein de confiance, comme un représentant en pitié, est revenu vieux à la maison. Mais les signatures qui étaient là étaient fabuleuses. Et ce qu'il disait de Brasillach, lui, il disait qu'il n'avait pas une sympathie particulière. Et il dit pourquoi. Anoui était un hypersensible, et très courageux, mais hypersensible. Il a dit qu'il a toujours senti chez Brasillach un mépris. Il disait un peu, c'est le mépris d'un normalien. N'oublions pas qu'Anoui, il n'a pas fini l'université. Il avait les moyens, il avait les moyens intellectuels, mais il avait dû soutenir sa famille. Il disait toujours qu'il sentait le mépris intellectuel. En plus, Brasillach était mondain, Anoui ne l'était pas. Et il se sentait un peu méprisé comme par un intellectuel adoubé par Brasillach. C'était ça la raison. Et c'est aussi la raison, qui d'ailleurs l'a beaucoup servi à Anoui, c'est comme il n'avait pas d'amitié particulière, il n'y a pas donné beaucoup de textes. Ce qui fait qu'à la libération, il n'y a pas eu de problème. Mais vous voyez, maintenant, on ressort des choses sur ces femmes qui étaient tondues et tout ça. Bien sûr que c'était pas courageux, bien sûr que c'était nul, mais il y a des gens qu'on a découverts 20 ans ou 30 ans après dans des postes de responsabilité et qui avaient été vraiment nazis. Alors je trouve que c'est facile de se dédouaner sur les plus faibles, de tondre une nana qui a fait des conneries pour manger. Bon, elle n'est pas brave, je ne la fréquenterai pas. Mais je trouve que c'était, l'épuration n'a pas été une bonne chose. Je trouve qu'elle a sali une si belle victoire. Et je pense qu'Anouilh ne l'a jamais pardonné. Marcel Aimé non plus. Mmh. Marcel Aimé d'ailleurs a été plus dur, plus longtemps. Anouilh s'est arrêté à la pétition, après il n'a plus discuté de rien. Et l'ennui, c'est que très souvent, on met Anouilh, Drieu, La Rochelle, j'avais jamais pensé, et Brasiac ensemble. Donc je trouve que c'est très dangereux, c'est à nous, c'est le plus intelligent, c'est le premier. C'est à nous de ne pas systématiquement citer Brasiac à cause de Anouilh, parce qu'il y a des gens qui ne voient que ça, qui voient rouge à Brasiac. Moi, je l'ai lu récemment, en plus, c'est bon. Mais vous voyez comment les gens, ils sont polarisés maintenant. Il y a certains mots, vous ne pouvez plus les dire. Hein. C'est, moi, personnellement...
Alors vous n'hésitez pas à les écrire, hein, quand
vous
êtes dans
vous
votre
avez tout à fait raison.
Biographie, journaliste, cet illustre inconnu, vous évoquez, justement...
Je suis tout à fait d'accord avec vous, faut oser.
Brasiac. Et voilà, et puis...
Faut oser. Bon.
Et puis il y a des gens qui, de tous bords, qui ont cette honnêteté intellectuelle et qui ne s'arrêtent pas aux opinions politiques, même à la vie des uns et des autres, et qui voient la qualité des œuvres. Et c'est, mon Dieu, c'est ça qui importe. Je vous propose d'abord de faire une petite pause musicale parce que nous avons un message de la radio à écouter. Nous allons écouter aussi une pièce de Bach, des variations Goldberg, au clavecin par Gustave et Léonard. Et bien sûr, nous reprenons après sur l'après-guerre, hein, tout de suite sur l'après-guerre. Nous lirons d'ailleurs aussi quelques messages que les auditeurs ont eu la chance de nous envoyer. Voilà.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir de recevoir en cette première partie d'émission Anka Wisdey pour son livre, sa biographie, publiée au classique Garnier, Jean Anouilh, cet illustre inconnu. Et nous en sommes rendus dans notre discussion à l'après-guerre, l'immédiate après-guerre. La guerre a été bien sûr L'occupation a été une épreuve pour Jean Anaouilh, mais l'épuration encore plus. Cette période difficile voit d'une part ce chef-d'œuvre joué, donc Antigone, qui a un succès immense. La libération, c'est l'épuration avec la pétition. Cette trentaine de signatures rappelle en cas de qu'Anouilh récupère. Malheureusement, effectivement, il n'obtiendra pas la grâce de Gaulle. Il lui en voudra toute sa vie, d'ailleurs. Un crayon, comme il le baptise. Nous avons des messages d'auditeurs. Alors, en Cavisdeuil, il y a un auditeur qui rappelle les débuts difficiles de Jean Anouilh. Ça nous ramène un peu en arrière, mais je lis son message. Une anecdote qui montre les débuts difficiles de Jean Anouilh, c'est écrit dans La Vicomtesse n'a pas reçu son balai mécanique. Il raconte qu'ils couchent leur bébé dans une valise aménagée en berceau. Rien à voir avec la littérature, mais cela m'avait marqué, nous dit notre auditeur.
Écoutez, c'est très beau et on va dire à notre auditeur d'abord qu'il a parfaitement raison et qu'il y a même plus fort que ça si le bébé dormait, l'adorable bébé dormait dans la valise. Anouilh, Emmanuel Valentin, donc la créatrice finalement du personnage d'Antigone dans la pièce, il vivait avec des fauteuils et un canapé qui faisaient partie du décor de Siegfried et que Jouvet leur avait prêté. Donc c'est très drôle de voir deux grandes personnes de théâtre, une excellente comédienne et puis un auteur qui deviendra aussi metteur en scène, vivre dans des décors de théâtre chez eux parce qu'ils étaient trop pauvres pour avoir quoi que ce soit.
En effet. Et puis un auditeur nous rejoint effectivement ce que vous avez cité, notamment de Lodenbach et de cette émission à laquelle était invité Anouilh. C'est dans les archives du XXe siècle, et qui a écouté donc cet auditeur, Lodenbach, qui était un grand ami de Jean Anouilh. Et voici ce que dit Anouilh: « Je n'ai pas très envie de constituer mes archives, je dis toujours, ce qui me rend toujours un peu allergique à la télévision, que je n'ai rien à dire à tout le monde, et encore moins après ma mort, j'ai écrit des pièces de théâtre pour distraire des gens. »
Extraordinaire, vous voyez.
C'est des formidable. Gens et non pas les gens.
Des gens
ce qui n'est
et pas tout
pareil,
le monde.
Effectivement.
Des gens et pas tout le monde. Oui, merci à l'auditeur, c'est formidable.
Et lui, il a trouvé. Donc, un autre auditeur, il faut reconnaître qu'Anouilh a réhabilité, c'est exactement ce que vous disiez, il faut reconnaître qu'Anouilh a réhabilité le personnage de Créon qui est autoritaire et odieux chez Sophocle. C'est ce qui rend la pièce intéressante, même si elle évacue toute référence métaphysique. Il serait bien que le théâtre de l'Atelier redonne la pièce, mais j'ai l'impression qu'il tourne le dos à l'héritage d'Anouilh. Mais Antigone et Fillon, vous l'avez rappelé, est repris actuellement au théâtre du Prochain à Montparnasse.
Notre cher auditeur, il a raison, parce que ce qu'il veut dire, c'est que la pièce soit reprise, je comprends très bien. Nous avons recommandé un bon spectacle, mais ce qu'il souhaite, et c'est pas si faux, c'est qu'elle soit reprise là où il y a eu la création, c'est-à-dire au théâtre de l'Atelier, qui a jusque dans ses bancs le souvenir de Barsac et de... Mais vous savez, c'est juste pour que nos auditeurs ne soient pas tristes et qu'ils aient un argument quand on va leur dire « Mais Anouilh est démodé et tout ça. » Il y a un problème. C'est que maintenant, une distribution de 6 personnages est une distribution lourde pour un producteur. Donc, qu'ils sachent toujours répondre que c'est aussi un problème de coût pour lequel on ne reprend plus. Maintenant, vous mettez 2 personnes sur scène à Paris, la production est d'un million. Vous imaginez le coût. Donc, ce n'est pas la faute de Anouilh. Anouilh lui-même disait, quand je n'avais pas d'idée, j'introduisais un nouveau personnage. Et il me disait, bientôt, je serai injouable. Donc, c'est un peu de ça dont il souffre. C'est-à-dire, de son temps, le théâtre était plein. Le poche est plein, mais c'est un petit théâtre. Mmh. Maintenant, les théâtres ne sont plus pleins. Mais on ferait bien, comme exactement dit l'auditeur, se retourner vers ce merveilleux héritage. Il y a une autre chose qui est très belle, quand même, de Anouilh. Beaucoup de temps nous sépare de l'écriture de ces pièces, un demi-siècle. Ça n'a pas vieilli. Je conseille à nos éditeurs de lire des passages de ces pièces. Il n'y a pas un mot de trop. Il n'y a pas un mot qui était à la mode et qui ne l'est plus. C'est pur comme du Sophocle, comme du Shakespeare. C'est simple et pur.
C'est le signe du génie pour vous ?
Vraiment, oui, parce que ça traverse le temps. Mmh. Le personnage, notre cher auteur dont nous parlons, il est parti. Mais regardez, les auditeurs bien présents constatent ça. Ils constatent qu'ils ont un patrimoine.
Il a un style très pur et très simple à la fois.
C'est lui, la
simplicité. Lui est vraiment propre.
La simplicité est la chose la plus difficile.
Oui.
Exact.
Alors, je vous propose que le temps passe.
Oui, est-ce que hélas, oui, je l'ai marre aussi.
À peu près 25 minutes à passer en votre compagnie et pour arriver justement à un certain nombre de pièces aussi de chef-d'œuvre qu'il a écrit dans la dernière partie de sa vie. Il a une quarantaine d'années au moment de la libération. Je vous propose, alors, il se passe beaucoup de choses, comme il écrit d'ailleurs un certain nombre de très belles pièces. Son père meurt. Et puis, il va se séparer de sa première femme, Monel. Je vous propose d'évoquer cette période pour en arriver, si vous voulez, à ce chef-d'œuvre qui est l'Alouette. Hein. Nous sommes dans 1952 et qu'il va écrire dans des circonstances un peu particulières alors qu'il s'installe à Montfort-l'Amaury. Alors, je vous laisse évoquer donc, ces pièces de la quarantaine, dont Colombe, je crois, qui est un triomphe, hein. Et ainsi que d'autres. Que voudriez-vous dire à cette période 45-52
dans les années 40 il y a des changements sur tous les planchers à nouilles. Donc, effectivement, comme vous l'évoquez, Monel Valentin devient de plus en plus fragile. Bon, peut-être qu'elle avait aussi un léger problème avec l'alcool, ce qui fait que malgré tous les efforts de Jean Anouilh, de Barsac, de la faire jouer dans leur pièce ou dans d'autres pièces, elle ne peut plus jouer. Toute sa vie, Anouilh ne l'avait pas épousée, mais toute sa vie, il s'occupera. J'ai des confidences de son fils, de Nicolas Anouilh. Il allait la voir jusqu'à la fin en lui apportant les chaussures de la bonne pointure. Bien sûr, il lui avait acheté une maison, des chaussures de la bonne pointure, des habits et tout ça. Il s'en est occupé toute sa vie. Mais, en même temps, il est tombé amoureux d'une très très jeune fille qui avait 16 ans et qu'il a rencontrée dans un cours de théâtre, celle qui deviendra Nicole Anouilh, et c'est la seule femme qu'il aura épousée, et lui a donné de merveilleux enfants. Et du coup, si vous voulez, il a changé. Maintenant, il est avec une jeune femme. Bien sûr, financièrement, il se débrouille très très bien, donc il peut faire ce qu'il veut. C'est assez simple, tout ce qu'il veut, c'est du théâtre. C'est écrire du théâtre. Il commence à en mettre en scène. Vous voyez le changement? Il y a un changement pour l'homme Anouilh qui passe en nouveau couple et qui aura de nouveaux enfants. C'était un père gâteau, c'était un père merveilleux, il était fou des enfants, il s'en occupait au-delà de ce qu'on peut imaginer. Sur le plan du métier, il ouvre aussi une nouvelle porte. Il n'est plus seulement un auteur, fût-ce de génie et fût-ce de grand succès, mais il devient metteur en scène. Parce qu'en suivant sans arrêt les répétitions, en aimant les comédiens, avec humour, avec des blagues, avec des canulars, il aime au fond sa vie et le théâtre. Donc, il devient metteur en scène, il aura toujours un œil extérieur, comme on appelle au théâtre, ça sera Roland Pietri. Mais Roland Pietri, ça sera un deuxième, ça sera vraiment l'œil extérieur. Il le prendra avec fidélité sur toutes les mises en scène. Mm-hmm. Mais c'est clair que la conception géniale est de Anouilh. Et c'est au fond une grande tradition, comme les compositeurs qui dirigeaient leur première symphonie. La première création d'une symphonie, ben c'est Beethoven qui était en scène, ou Schubert. Très bien. Donc, voilà combien de changements lui arrivent. Et tenez-vous bien, même sur le plan de l'inspiration, si jusqu'ici, pendant 20 ans, il s'est occupé des problèmes de famille, de couple, de frères, de sœurs, tout d'un coup, son inspiration va vers l'histoire. Bien entendu, il se peut que la guerre, en même temps, la guerre qu'il a vécue comme soldat, la défaite, malheureusement. Ensuite, le retournement, le fait que, heureusement, il y a eu la résistance, la tristesse de l'épuration. Tout ça, tout d'un coup, l'oriente vers l'histoire. D'où il était un pion dans un monde familial intéressant et très chaleureux. Tout d'un coup, il se rend compte qu'il est aussi un citoyen, mais un citoyen dans un monde qui est en perpétuel changement et auquel l'homme, parfois, même le meilleur des hommes, ne peut rien. Il peut résister, il peut gueuler, mais c'est à peu près tout. Et à ce moment-là, on a le début des pièces historiques. Donc, nouvelle vie familiale, nouvelle corde à son arc, metteur en scène, et nouvelle inspiration, les pièces historiques. Et là, nous sommes déjà en 52, ce que vous évoquez.
Nous avons parlé effectivement de ces pièces historiques. Comment choisit-il les thèmes? Vous écrivez pour l'Alouette, qui est sa première pièce historique, que c'est le fameux Père Doncoeur qui le sollicite sur ce thème. Mais sinon, comment choisit-il? Comment lui vient l'inspiration, le choix particulier, hein? Donc l'Alouette, après il y aura Pauvre Bidos, et puis Beckett ou L'honneur de Dieu. Comment choisit-il ces thèmes?
Ah, c'est joli. Je vous dirai tout de suite pour l'Alouette, mais je suis très heureuse que vous avez cité le Père Doncoeur, parce que le Père Doncoeur, c'est aussi l'un de ceux qui ont contribué à ce qu'ils écrivent le scénario de Monsieur Vincent.
Oui, alors, pardon,
que nous évoquions.
Il faut évoquer, monsieur, vous avez raison.
Vous voyez la richesse de sa vie, hein, dès qu'on tombe sur...
C'est un film avec Pierre Freinet, hein, dans le rôle de Vincent. Et c'est donc 1945 à peu près, hein, c'est ça, 45,
un peu plus tard, 47.
Un peu plus tard, 47.
Parce que ce qui est très intéressant, 1947, et c'est oui. drôle. Hein,
mais bon, qu'est-ce qui l'amène à Monsieur Vincent? Parce que il n'était pas particulièrement religieux, quoi. Ce n'était pas un mystique.
Vous savez, à nous, c'était un homme très pudique. Les choses qui comptaient vraiment énormément pour lui, on a parlé de Françoise Giraud, qui lui prend une interview et qui finalement n'apprend rien, parce qu'il était très pudique sur les engagements de son cœur, qui étaient les engagements familiaux. Il parle très rarement de son père, qu'il a adoré toute sa vie. Mmh. Il ne parle pas du soutien qu'il a donné après à Monel Valentin. Donc, la religion était... Moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de réaliser, lui demander s'il était croyant. Il répondait avec une discrétion et ensuite, en faisant l'enquête, après sa mort, énormément. Et surtout, il ne voulait pas se vanter avec ce qu'il faisait de bien. J'ai trouvé, je vous promets, j'ai les noms, j'ai trouvé 3 églises auxquelles il avait donné des fonds très importants, en leur faisant promettre qu'ils ne diront jamais, qu'ils n'écriront jamais qu'il a donné de l'argent. Donc il y avait une pudeur par rapport à ce qu'il donnait. Ce qui était à lui, c'était caché. Donc effectivement, la religion, il était profondément... Et il y a eu une chose, c'est drôle, comme ça nous amène toujours à l'épuration. Vous savez que moi, l'épuration, je n'étais pas consciente avant de connaître Anouilh. Maintenant, je découvre avec joie que Pierre Assouline, des gens comme ça, écrivent des livres sur l'épuration, c'est très bien. Et tenez-vous bien, à l'épuration, notre cher grand génie de Freinet, merveilleux comédien, qui avait été un héros de la Première Guerre, et ben il a été mis en prison parce qu'il aurait joué dans des productions faites par des Allemands en France. Je ne sais pas, ça a été aussi un peu le cas de Darieux, qui était venu avec un train de comédiens et tout ça. Mais peut-être qu'il n'était pas au courant que le producteur était allemand. Donc le pauvre Freinet, il a eu une récompense parce que de même qu'il a passé, je crois qu'il a passé 2 ou 3 mois en prison. Hein. Yvon de Printemps l'a attendu, et l'a visité, il l'a attendu. Et le fait de faire Monsieur Vincent, de faire un homme honnête qui n'est pas toujours compris, ça a été un succès énorme. Il faut dire que le film est merveilleux. Le scénario est très beau. Il est fait sur mesure pour Freinet. Et à mon avis, c'était une petite récompense qu'Anouilh donnait à un type qui, au fond, lui a mis le pied à l'étrier. C'est le premier qu'il a joué. Et il était vedette, Freinet. Donc maintenant qu'Anouilh était plus puissant, et ça lui ressemble tellement, il lui a donné un dédommagement. Un dédommagement qui ne disait pas son nom, mais qui était une preuve, un coup de chapeau de grande qualité et un coup de chapeau artistique.
C'est l'époque aussi où il fait cette deuxième pétition. On a parlé pour Jacques Laurent.
Oui.
Alors, en même temps que, effectivement, il fait donc Monsieur Vincent. Je vous propose d'en arriver, si vous voulez bien, à l'Alouette.
Oui, alors là, c'est très bien parce que vous m'avez demandé comment il choisissait ses sujets.
Oui, ces thèmes,
alors,
ces thèmes
Dieu merci, pour Alouette, nous l'avons. Et nous l'avons pas seulement dans mes conversations avec Anouilh, je suis sûre que tout le monde me fait confiance, mais nous l'avons sous la plume d'Anouilh lui-même. Nous venons d'évoquer sa nouvelle vie. Donc, il est avec sa nouvelle compagne, Nicole Anouilh, qui entre-temps devait avoir quelque chose comme 20 ans, qui était enceinte, et ils aménagent à Montfort-l'Amaury. Anouilh était un auteur qui avait un succès fou, pas seulement en France, mais à l'étranger aussi, en même temps à Moscou. À Moscou, dictature communiste. Il y avait 3 théâtres qui jouaient 3 pièces différentes de Anouilh. C'est vous dire, c'est donner juste une image. Il était joué tout le temps en Angleterre, en Allemagne, dans plusieurs théâtres à Berlin, en même temps. Donc, étant aussi loin dans sa carrière, n'étant pas du tout mondain, il a voulu s'éloigner de Paris. Il allait pour les répétitions. Mais il allait et il revenait à Montfort-l'Amaury. Donc, il était en train de s'installer à Montfort-l'Amaury. Il écrit que les meubles étaient encore dans le jardin. C'est une très belle maison que j'ai visitée. Les meubles étaient encore dans la maison, dans le jardin de la maison. Il entend l'église de Montfort-l'Amaury. Il entend le bruit des cloches. Et à ce moment-là, il voit son sujet. Il faut voir que l'église de Montfort-l'Amaury est tellement belle.
Ah, c'est une très belle église. Elle vit trop magnifique Renaissance.
Exactement.
Elle vaut le déplacement. Mais Montfort-l'Amaury vaut le déplacement. Et on peut y voir donc cette maison d'Anouilh. On peut la voir juste à côté de l'église d'ailleurs. On comprend qu'il a entendu les cloches.
Et je me demande si cette terre de Montfort-l'Amaury n'est pas quelque part béni, il y a un mystère. Parce qu'il y a Ravel.
Oui, en effet.
Il y a Anouilh. C'est deux types tout à fait droits et intéressants.
Et Colette, pas très loin.
Exactement, presque à deux pas.
Oui, oui, d'ailleurs, à deux pas, c'est le village d'à côté. Et puis d'autres, hein, José Maria de Heredia aussi, qui a habité Montfort. Enfin, c'est
un coin qui est proche
de Paris et c'est beau. Donc ça a attiré, non, c'est normal que c'était attiré aussi.
Tout à fait, mais un tel nombre de génies et de pudiques. Et à ce moment-là, quand il entend les cloches, il a un sentiment profond. Il attend la naissance de son enfant. Il est dans un nouveau couple. Il dit qu'il prend une table parmi les meubles laissés par les déménageurs et qu'il monte dans une chambre de bonne, qu'il installe sa table et que sans note historique, sans ouvrage de référence, il se met aussitôt à l'alouette. Donc moi, je pense que c'est quelque chose comme dans Gélis, le tableau de Millet. Il y a un moment où le moment historique, le moment du temps et le personnage où il en est de sa vie, tout ça se rencontre. Comme dans une rencontre amoureuse, mais qui est artistique. Ça va donner une pièce. Et là, il se met à l'alouette, ça y est. Donc, c'est évident, cette terre lui a soufflé cette pièce.
Alors, pour cette pièce, il privilégia, c'est ce que vous écrivez dans votre livre, En Cavis d'Aïe Jean Anouilh, cet illustre inconnu aux éditions Classiques Garnier, pour cette pièce, il privilégia l'une de ses sources préférées, donc, l'histoire de France de Michelet.
Oui.
Anouilh aimait Michelet.
Il adorait. Ah, il adorait l'histoire en général, mais Michelet particulièrement. Alors là, on peut dire que c'est une passion. S'il avait deux passions, c'était Molière au-dessus de tout, et après Michelet et les livres historiques. Et il aimait beaucoup les livres historiques anglais aussi, parce qu'ils sont très précis, ils vont très vite dans les détails. Mais tout à fait. Mais c'était un fou d'histoire, Anouilh. Vous imaginez pas quand vous voyez sa bibliothèque, mais il dévorait les livres d'histoire, et le plus formidable, il se rappelait de tout, avec les dates. Cet homme était enceint, mais il était aussi un grand cerveau.
Alors vous écrivez, l'Alouette est l'une des rares pièces d'Anouilh qui concilie critique et public. Un grand succès alors.
C'était assez épatant. C'était une vraie merveille. Alors je crois qu'il n'y a pas eu un pour dire qu'il ne l'aimait pas. Il faut reconnaître, c'est une mise en scène d'Anouilh, que Suzanne Flon incarnait Jeanne d'Arc. Donc on avait toutes les choses positives du patrimoine français. Qui c'est qui pouvait faire la tête à ça?
Alors un auditeur à juste titre, pourquoi le titre d'Alouette pour Jeanne d'Arc?
Ah oui, c'est très joli, parce qu'en principe, l'alouette, elle va quand elle vole, elle va dans un vol tout droit, puis après, elle descend très rapidement. Et pour Anouilh, l'alouette était cette espèce de, on ne peut pas dire météorite, parce que le météorite, il tombe. Il fallait vraiment une chose de la nature qui monte vers le ciel et qui, après, en descend. Mais on n'oubliera jamais la montée de l'alouette. On n'oubliera jamais la tendance. Quelle que soit la fin qui est triste, quel que soit le martyr de Jeanne d'Arc, on n'oubliera jamais que quelqu'un a osé faire ce qu'elle a fait. Et de même que le vol de l'alouette, c'est quelque chose, c'est une merveille de la nature. Cette héroïne extraordinaire, c'était une merveille de la nature, tout en simplicité, en courage et en unicité.
Alors vous évoquez qu'il y a quelqu'un qui est méconnu dans votre biographie de Jean Anouilh aux éditions Classiques Garnier, c'est son peintre scénographe, Maclès.
Oui.
C'est l'occasion de l'évoquer, de lui rendre justement peut-être le mérite qu'il devrait avoir.
Vous avez tout à fait raison. Et c'est très drôle parce que j'ai, justement, en préparation d'ailleurs de notre émission, je lisais cette biographie de Marcel Aimé, qui est un mec formidable. Et moi, je liais Maclès à Jean Anouilh. Pour une raison très simple, dès que vous allez dans les logements de Anouilh, que ce soit à Paris, rue du 29 juillet, ou que ce soit à Montfort-la-Maurie, au fond, ou que ce soit en Suisse, au fond, les tableaux sont des scènes de théâtre dessinées par Maclès, les décors de Maclès. Il avait les moyens d'avoir des tableaux de prix à Anouilh. Mais non, il vivait dans le théâtre. Comme pauvre, il vivait dans les meubles du théâtre. Riche, il vivait dans les décors de théâtre de son ami. Donc, il s'entendait merveilleusement avec Maclès. Maclès a une plume exceptionnelle. Vraiment, ce sont des tableaux. Mais j'ai découvert avec joie qu'au fond, Maclès avait aussi une puissance de travail exceptionnelle parce qu'il faisait aussi les décors de Marcel Aimé. Bon, il y a un élément commun, c'est que tous les deux étaient souvent joués à l'atelier, mais tous les deux étaient des grands auteurs dramatiques et étaient joués ailleurs. Et Maclès, donc, c'est effectivement, on l'a oublié, mais c'est un scénographe et un peintre de grande qualité. Il y a quelques années, il y a une exposition faite par sa veuve qui était sur ses tableaux et ses scénographies. Et ça a eu un immense succès. Je crois que c'est le 4e arrondissement de Paris. C'est un artiste énorme. Donc, voyez aussi le goût de ces gens qui s'entouraient de bons amis, Marcel Aimé. Et puis, en même temps, qui avait vraiment, qui faisait équipe avec des gens bien, qui choisissaient bien et qui restaient fidèles pendant toute leur carrière.
Maclès va illustrer d'ailleurs quelques publications.
Oui,
de
tout à fait.
Jean Anouilh.
Tout à fait.
Ses fables, je crois.
Oui, oui.
C'est illustré par Maclès.
Oui, j'ai eu le bonheur d'avoir...
Un mot sur les fables, peut-être, parce que avant de lire votre biographie, j'ignorais qu'Anouilh avait écrit ses fables.
Écoutez, c'est la seule chose dont il m'a parlé. Il m'a dit, vous devriez lire les fables. Parce que moi, j'étais tellement folle de son théâtre.
Cette œuvre particulièrement.
C'est la seule chose qu'il m'a dite. Donc, du coup, évidemment, tout de suite, j'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Les fables, il les a écrites à un mois, au bord de la mer, dans une de ses maisons. Oui, tout à fait.
Il avait une maison au Cap Ferret.
Il y avait une maison au Cap Ferret, et dans cette maison, il y avait un très beau jardin, et il y avait un petit kiosque où lui, il se mettait l'après-midi et il écrivait. Et pour Nicolas, pour son fils, il écrivait une fable par jour, ce qui fait 30, et c'est elles qui sont. Alors, c'est des fables qui sont très drôles, la prosodie, elle est parfaite, on pense tout de suite à La Fontaine, et en revanche, elles sont adaptées. C'est-à-dire qu'il y a aussi des personnages un peu modernes, il y a des personnages autres, c'est toujours dans la simplicité et plein d'humour. Et plein d'insolence aussi.
Je vous propose d'évoquer Pauvre Bitos, le digne tête. Alors si vous me le permettez, parce qu'il n'arrive que 10 minutes, malheureusement, passer à votre compagnie en Cavis Day, j'en profite pour rappeler le titre de votre biographie consacrée à Jean Anouilh. Jean Anouilh, cet illustre inconnu, enfin au terme de cette émission en tout cas, il nous sera grâce à vous moins inconnu. En tout cas pour tout ce que nous n'avons pas pu évoquer, je renvoie les auditeurs à la lecture de votre livre que vous publiez aux éditions Classique Garnier. Alors, Pauvre Bitos, je lis quelques extraits de ce que vous avez écrit, parce que c'est assez savoureux, et ça résume bien aussi, et puis je vous laisserai parler de cette pièce. Voilà. Anouilh, écrivez-vous, règle un compte personnel avec la cruauté dans cette pièce, et se met tout le monde à dos. Pauvre Bitos déchaînera les passions haineuses. La représentation fut un scandale, un silence gluant de haine régnait dans les salles. Et néanmoins, le public fait à Pauvre Bitos une ovation. Je vous laisse maintenant évoquer.
Ça me rappelle une chose très drôle, c'est qu'il y avait un critique qui était très politisé, qui à un moment donné, pour vraiment montrer son mépris pour Anouilh, avait écrit « Anouilh, cet auteur qui ne fait rire que le public ».
Oui, bah, ça,
vous voyez,
c'est
le public. Vous voyez l'idée. Hein,
c'est donc extrêmement grave. Mais...
il a écrit, il a signé. Donc, effectivement, le public l'a toujours suivi. Le problème, c'est que de nouveau, il y a cette espèce de rouge, de couleur rouge. Tout d'un coup, il y a des mots que les gens ne peuvent pas entendre parce qu'ils les lient à des choses qui n'ont aucun sens. Et au fond, il voulait montrer que sur la Révolution aussi, il y avait eu des mecs qui, idéologiquement, étaient au fond pratiquement des dictateurs. Ils se trouvaient du bon côté, mais finalement étaient des dictateurs. Et ce brave Bitos, il le montre, c'est un dîner de tête, donc c'est une sorte de bal masqué. Et puis au fond, il montre qu'un type qui était dans la Révolution française, ben, il n'était pas aussi propre que ça, et qui ressemblait à certains gens de la collaboration. Alors, c'est très joli parce qu'Anouilh me disait, j'ai tué même un critique. Ils sont engueulés tellement quand ils sont sortis du théâtre, les critiques entre eux. Et puis, un des critiques s'est tellement énervé parce que, je ne sais pas, on avait pris sa place du parc. Il a fait une crise cardiaque sur le trottoir, malheureusement. Il est vraiment parti, hein. Il est vraiment mort. Et la directrice du théâtre a dû s'évacuer par la sortie de secours parce qu'il y avait des gens qui voulaient en venir aux mains. Mais à qui voulait... notre auditeur nous a donné la citation. À qui voulait plaire Anouilh ? À ces gens qui étaient dans la salle. Il a plu au public qui a très bien compris qu'il n'y a pas d'insolence à dire que tout le monde n'est pas héros à 100%. Mais il a eu le courage de le dire. Je n'ai jamais compris pourquoi ça crée tellement de levées de boucliers politiques. Parce que pour moi, Anouilh, il est toujours dans le cœur et la compréhension. Il comprend l'Alouette, il comprend Jeanne d'Arc. Il comprend cette petite peste de Antigone qui a des idées et du courage. Mais pour moi, le côté politique, chez lui, il est accessoire. Pour moi, à la limite, il est proche de Nietzsche. Il voit l'homme, l'être humain, grandir. Et il le met dans des situations historiques, parce qu'évidemment, là, il y a conflit. Mais je ne pense pas du tout que c'est un politique qui s'est jamais intéressé. Donc, essayons, ne le rabaissons pas au niveau politique. Il est à un niveau humaniste, il est beaucoup plus haut. C'est dommage de lui faire un procès sur des choses qui ne l'intéressaient pas. Et puis, nous perdons la joie qui est celle de ces pièces.
Et pourquoi, finalement, le public aime tant Anouilh et aime toujours tant Anouilh ?
Il est généreux. Il nous fait rire. Il nous fait rire et il nous comprend. Il n'a jamais un personnage, c'est peut-être ça aussi qui lui a créé des problèmes avec certaines confréries. On n'est jamais bon à 100% ni méchant à 100%. Si on est blessé, on devient méchant. Mais ça peut s'expliquer. Et lui, il le comprend. Il nous comprend. Vous savez, il disait cette chose tellement belle. Il disait « L'être humain est un personnage inconsolable et gai. » Nous sommes tous inconsolables de la mort. On l'a évoqué par rapport à ça. Mais on est gai. C'est-à-dire que la seule chose qu'on puisse faire ici, c'est donner un peu de compréhension et d'humour pour voir le sourire de l'autre. Et je crois que c'est ça qui l'a guidé dans la vie. C'est pour ça qu'il a fait des comédies. Il aurait pu faire des tragédies fantastiques. Mais je pense vraiment qu'il voulait donner du plaisir à la vie des gens. Et dans ses conversations, il était comme ça. Il nous faisait rire sans arrêt. Lui, sa femme, il nous faisait rire.
Malheureusement, il ne reste que 5 minutes en Cavisdey, en votre compagnie. Je vous propose, vous le souhaitiez, et je le comprends très bien d'ailleurs, évoquer Beckett ou l'honneur de Dieu. Et puis, j'aurais aimé que vous parliez même de l'arrestation aussi, qui n'est pas très connue.
Mm-hmm. C'est un des fours. C'est un de mes fours.
Oui, vous dites grand bien d'ailleurs de l'arrestation dans, dans votre livre. Donc, Beckett, l'honneur de Dieu, l'arrestation, et puis ce que vous souhaitez évoquer. Avant que nous nous quittions. Et...
Alors, Beckett, peu de gens le savent, mais il y a un film extraordinaire avec Peter O'Toole et Richard Burton qui s'appelle Beckett. Et ben, c'est la pièce de la nouille. D'accord. C'est la pièce qui a été achetée par des producteurs américains. Ils admirent tous. Après, ils crachent sur la nouille. Ils ne savent pas qu'au fond, ce film, c'est la pièce de la nouille. C'est une pièce merveilleuse. C'est toujours son idée, comment être un homme. Et puis, dans Beckett, il a exactement ça. Il y a le type qui est un noceur. Et tout d'un coup, quand il devient cardinal et évêque, là, il se comporte comme dans le rôle. Vous voyez, c'est au fond l'anticréon. Quand j'ai la charge d'une paroisse, j'oublie mes erreurs de jeunesse et mes amis de beuverie et je m'occupe. Je prends ma place d'homme au moment où il faut le prouver. Et c'est exactement, c'est à la romaine, hein. C'est Cincinnatus. Quand il y a quelque chose de sérieux à faire, j'oublie tout le reste. Donc il avait ça, il a illustré dans Beckett, il a illustré dans sa dernière pièce, qui est Thomas Morus, avec la même idée. Comment être le meilleur possible des hommes avec ce qu'on a, avec ce qu'on
est. Pour nous, qu'est-ce que c'est comment être un homme?
Pardon?
Pour Anouilh, quand vous dites comment être un homme, Beckett, etc., ça veut dire quoi pour Anouilh, être un homme?
Ah, ça voulait dire être droit.
Être
ça voulait
droit,
dire, même si ça me crée des problèmes et que j'aime pas l'épuration, râler. Mmh. Ça veut dire, même si je sais qu'ils vont m'en vouloir, dans Pauvre Bitos, je vais montrer qu'il y a des... C'est essayer de se lever tout seul contre tous. Même si ça vous attire des ennuis. C'était aussi clair que ça. Comme Beckett le fait devant son roi. Ex-ami, comme Thomas Morus le fait devant son roi. Vous voyez, chaque fois, il prend le pouvoir. Donc, vous voyez à quel point il est humaniste. C'est toujours l'être humain qui a du courage et qui a des valeurs contre le pouvoir politique. Donc, ce mec-là, vraiment, il ne risque pas d'être enféodé à quel que soit. Et vous m'aviez demandé une autre chose
Je précise quand même pour vous, hein, Beckett, c'est l'une des plus belles pièces du 20e siècle. L'arrestation, l'arrestation dont vous dites que jamais Anouilh ne s'est confié comme dans l'arrestation.
Oui, il y a trois pièces. Il y a l'arrestation, il y a la grotte, il y a Pauvre Antoine. Et ça, c'est la dernière période de la création. Et là, il y a ses autobiographies. Ce sont des autobiographies. Lui qui était si pudique, il arrive à se mettre dans certains des personnages, un peu aussi le nombril. Donc c'est au fond, si vous voulez, c'est enfin le maillon qui manquait entre l'histoire et son histoire personnelle. Et il le fait très bien. Et j'avais envie, si vous avez encore 30 secondes.
Il nous reste 2 minutes, 29 secondes précisément.
Oui, c'est énorme. Oui, parce que j'avais envie de vous dire une chose. Au moment où Anouilh est décédé, donc c'est le 5 octobre 87, il y avait peu de gens qui le connaissaient encore. D'abord parce qu'il était en Suisse, parce qu'il était très pudique. Et évidemment, très gentiment, on m'a demandé, le quotidien de Paris m'a demandé de faire sa nécrologie. Alors j'avais envie de vous dire 2 mots. Le titre, c'est « Il a fait semblant de mourir parce qu'il s'ennuyait un peu ». Et voici le texte. « C'est dur de devenir orphelin, à n'importe quel âge. Sur la cassette message de mon répondeur enregistreur, il y a un premier message que je n'efface jamais. »
C'était rien. C'était Anouilh qui venait prendre de vos nouvelles.
« Il n'y a que les êtres qui vous sont tout pour pouvoir lancer de cette voix enjouée et simple. »
C'était rien.
Et c'était tout pour moi. De commencer chaque journée en entendant sa voix, grave et légèrement ironique, comme son regard, comme sa vie.
En cas visiblement, nous séparons. J'aimerais vous poser deux questions, donc deux réponses assez courtes. La pièce préférée d'Anou, celle que vous préférez de toutes, et puis, a-t-il un héritier?
La pièce préférée, c'est Beckett. Je mets très cher Antoine, parce que j'ai compris des tas de choses sur sa vie privée et que c'est très franc. Je mets très cher Antoine en deuxième position, mais Beckett tout de suite en premier, oui.
Et y a-t-il un hérité? Ou y a-t-il un héritage?
Écoutez, j'aurais dit, mais sa carrière a été brève, malheureusement, j'aurais dit Jean-Luc Lagarce. Quand j'étais critique de théâtre, je le soutenais énormément. Maintenant, on en fait effectivement, vous savez, maintenant on reconnaît qu'il est mort il y a 20 ans. Donc malheureusement, il n'a pas une carrière qui puisse nous le prouver. Mais, et dans l'humanité, et dans le fait de pouvoir gérer des grandes distributions, et des problèmes humains qui sont les nôtres, en les mettant au niveau supérieur, franchement, le dernier que je vois, c'est Lagarce. Et on aura lui, parce qu'il a dû se battre beaucoup. Il n'était pas comme à nous, il a eu son époque de vache maigre.
Merci beaucoup, Anka Vizdaï. Je rappelle votre livre, cette superbe biographie, Jean Anouilh, cet illustre inconnu, que vous proposez aux éditions Classiques Garnier. Très bonne soirée à vous.